non essentiels, puis soumis au pass sanitaire, menacés de fermeture. C'est peu dire que les lieux de culture ont dû se battre pour subsister ces dernières années entre confinement, manque de revenus. Alors que certains ne se sont pas relevés de la crise sanitaire, d'autres se sont réinventés pour subsister et continuer d'offrir de l'art aux franciliens. Mais ces lieux restent très inégalement répartis sur le territoire régional. Alors comment déconcentrer la culture? Comment faire venir la culture en milieu rural notamment? C'est un peu la grande cause du ministère de la Culture qui a lancé le printemps de la ruralité, une concertation sur la vie culturelle en milieu rural. L'objectif, faire participer les citoyens à la construction d'une offre culturelle loin des villes. Une question importante en Ile-de-France où 57% des communes sont considérées comme rurales. En plateau avec nous ce soir pour débattre de ce sujet, Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles, Véronique Vaux, vice-présidente du département de la Seine-et-Marne en charge de la culture et du patrimoine, Bruno Julliard, directeur général de la fondation Art Explora qui œuvre pour l'accès à la culture pour le plus grand nombre et participe également au projet du musée mobile. Comment rendre la culture plus accessible dans les milieux ruraux franciliens? C'est la question que pose ce nouveau numéro d'Île-de-France Politique et à laquelle nous tentons de répondre dans la prochaine demi-heure. Nous serons également avec le représentant d'un réseau de cinéma du Val d'Oise. Île-de-France Politique, c'est parti. Et bonsoir à tous les trois, à tous les quatre même, nous sommes en direct donc avec un quatrième invité. J'ai coutume de partir d'un chiffre pour commencer cette émission, en l'occurrence celui de la répartition des lieux culturels. Et le constat, c'est qu'ils sont plutôt inégalement répartis sur le territoire francilien. On compte par exemple 24 lieux culturels pour 100 000 habitants à Paris, alors qu'ailleurs dans la métropole du Grand Paris, on est plus entre 4 et 12. La culture, comme le reste, c'est pas suffisamment décentralisé en France.
La région Île-de-France est marquée par sa très grande hétérogénéité. On a la chance d'avoir cette grande capitale culturelle mondiale, qui est Paris, avec des équipements qui ont un rayonnement national et international. Mais on a aussi un réseau extrêmement actif d'acteurs, d'équipements, d'équipes qui sont répartis sur tout le territoire et y compris dans la ruralité. Et je pense au travail que mènent les grands labels de l'État, les scènes nationales, les musées, le patrimoine. Parce qu'on oublie souvent que la première force d'accès, la première capacité d'accès à la culture, c'est aussi par le patrimoine. Mmh. Et on a en Ile-de-France, vous savez, plus de 4000 édifices qui sont protégés au titre des monuments historiques et qui sont très bien répartis sur tout le territoire, et y compris dans les zones rurales.
Alors, il y a eu une réunion ce jeudi dans le cadre de la consultation sur le printemps de la ruralité, ce qui a été lancé notamment par la ministre de la Culture. Cela avait lieu à L'Envolée, c'est dans le Val-Briard, en Seine-et-Marne, dont vous êtes vice-présidente, Véronique Vaux. Quelle est la situation aujourd'hui pour les lieux culturels dans le département ?
Je vais revenir sur L'Envolée parce que c'est un lieu assez exceptionnel. C'est un territoire, le Val-Briard, très rural. Mmh. Et il y a eu la force d'une population et d'une communauté de communes qui a travaillé pendant des années avec un festival itinérant, avec deux chapiteaux, un festival qui allait de commune en commune. Ensuite, la population s'est appropriée ce festival et a porté le projet pour avoir une scène. Et avec les élus de cette communauté de communes, ce projet a pu avoir lieu. Ce projet a pu être créé et vraiment paraître. Et c'est un projet qui était soutenu notamment par le département, pour sa construction et bien sûr pour son fonctionnement. C'est au milieu de nulle part, c'est un lieu de diffusion et de création exceptionnel. Et aujourd'hui, nous avons eu cette réunion, d'ailleurs ce matin, où toute l'Île-de-France s'est réunie. Et je crois que tout le monde a été surpris, parce que lorsque l'on veut faire quelque chose, on peut y arriver quand on est vraiment soutenu par une population et des élus volontaires. Après, il faut du temps, il faut construire une culture sur un territoire totalement rural. Mais c'est un lieu assez d'exception. Et c'est vrai que le conseil départemental de Seine-et-Marne est toujours prêt à soutenir des projets innovants, est toujours prêt à aller auprès des élus, est toujours prêt à aller auprès des associations pour travailler avec eux, pour construire leurs projets. Nous ne venons pas avec des projets construits, nous co-construisons avec eux, ainsi qu'avec la DRAC, et c'est comme ça que nous abordons dans certaines communautés de communes, nous construisons des conventions pour vraiment montrer notre soutien aux élus et aux habitants, et nous le faisons avec la DRAC, nous construisons ça ensemble pour montrer que pendant plusieurs années, nous serons à leur côté, de façon à valoriser leur patrimoine, de façon à ce que le spectacle vivant de qualité vienne sur les territoires ruraux. 72% des communes de Seine-et-Marne, nous avons 507 communes, sont rurales. Donc vous voyez l'importance que le département peut avoir pour avoir une équité territoriale, que tout le monde ait accès à la culture. À la culture, ce qui peut être le patrimoine, que nous valorisons également avec un festival, où alors là, nous créons aussi un festival, toujours qu'on construit avec les habitants, avec les associations. Et donc là, nous avons du spectacle vivant. Enfin, c'est multiforme, c'est accès à tous, c'est gratuit, surtout gratuit. Et de qualité.
Il y a eu un effet Covid un peu justement sur l'art. Est-ce que désormais on co-construit davantage avec les habitants, Bruno Julliard?
En tout cas, ce que je crois, c'est que la période très particulière, un peu unique, notamment des confinements, a imposé à bon nombre d'institutions, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient d'ailleurs publiques ou privées, de se réinventer en partie et d'essayer de trouver des moyens d'aller vers les publics quand les publics ne pouvaient plus venir vers eux. Et ça, c'est un élément qui est important parce que je reviens sur votre tout premier constat qui est assez passionnant pour l'Île-de-France. On est probablement, je parle sous votre contrôle, monsieur le directeur, mais probablement une des régions, la région en France est certain, mais probablement une des régions au monde où l'offre culturelle est la plus riche, la plus dense et de la plus grande qualité d'ailleurs. Et malgré cela, on a par exemple à Paris le plus grand nombre d'écrans de cinéma rapportés au nombre d'habitants. Et malgré cela, nous savons qu'il y a des inégalités d'accès à la culture et aux institutions culturelles qui sont très fortes, notamment parce que l'éloignement géographique, l'accès difficile pour les raisons économiques, pour les raisons géographiques, ou alors tout simplement parce que certains habitants considèrent que c'est pas pour eux, qu'ils s'y sentiront pas bien. Eh bien, malgré cette offre très forte, très dense d'institutions culturelles, on a quand même des inégalités d'accès qui sont très importantes. Et donc ça impose à ce que tout le monde se remette en question. Et pour revenir à votre question précisément, oui, ça a imposé notamment de savoir comment on pouvait aller chercher un public qui ne vient pas forcément dans les institutions culturelles.
Parce que les inégalités d'accès, ça ne fait pas tout. C'est aussi peut-être aller chercher les gens pour ce qu'ils ont envie de voir, ce qu'ils ont envie de faire.
Je crois que plein de raisons peuvent expliquer que des publics ne se rendent pas, par exemple, dans un musée. Soit c'est trop loin, soit c'est parfois trop cher. C'est pas toujours le cas. Il y a heureusement beaucoup de politiques de gratuité ou de tarifs préférentiels, mais c'est la dimension économique peut être un frein. Et je pense que ce qui est le plus difficile pour nous tous les acteurs culturels, quels que soient nos rôles politiques, administratifs, les fondations, les acteurs culturels, les artistes, le plus difficile, c'est de lutter contre une forme d'autocensure, où on a tous à un moment dans notre vie eu ce sentiment de se dire « ce musée, il n'est pas vraiment pour moi, je ne m'y sentirai pas bien, je vais m'y embêter, je ne vais pas comprendre, finalement ce n'est pas ma place, je ne serai pas bien accueilli ». Et donc il faut donner l'envie de découvrir, c'est peut-être ça le plus difficile.
Chaque département a un peu ses spécificités sur l'inégalité d'accès à la culture, Laurent Roturier.
Oui, et c'est le rôle du ministère de la Culture, et c'est pour cela que la ministre de la Culture, que Mme Dati, a souhaité lancer ce printemps de la ruralité. Alors, ce n'est pas encore un printemps dans le climat, mais c'est un printemps, en tout cas, dans les faits et dans la ruralité. Mais, je veux dire, on ne part pas non plus de rien. Et ce que nous a montré aussi la crise sanitaire et ses suites, c'est l'attachement des Franciliennes et des Franciliens à la culture également de proximité. C'est une période dans laquelle on a redécouvert. On a redécouvert, par exemple, les 45 maisons des illustres. 10 maisons des illustres dans le département des Yvelines, où on est venu parce que c'est à proximité. On a redécouvert les 123 musées, qui sont des musées de territoire, souvent appartenant à des collectivités ou à des associations. Et ces musées-là sont devenus dans le quotidien. Et c'est un des acquis, des leçons de cette crise sanitaire, c'est retrouver une manière un peu différente. Ce n'est pas uniquement de la consommation. La vie culturelle, on a cette aspiration à la participation de nos concitoyens. Ils souhaitent être associés, ils souhaitent partie prenante. Et ils sont aujourd'hui extrêmement attentifs à cette question de la proximité. Et je crois que c'est le travail que nous faisons à la DRAC, d'avoir ce tissage de liens avec les collectivités. On a innové avec les conseils départementaux, avec la Seine-et-Marne, avec le Val-d'Oise, avec l'Essonne. On a signé des conventions. On va en direction des habitants dans les communautés de communes. Vous voyez, c'est un travail qui est long. C'est un travail qui est patient, qui nécessite de l'expertise et surtout, c'est un travail qui nécessite qu'on travaille ensemble. L'État, les collectivités, les acteurs culturels, les habitants, parce que personne n'a la clé pour réussir tout seul à lutter contre ces fameuses inégalités.
Ceux qui ont particulièrement souffert de la crise sanitaire, ce sont les salles de cinéma, on en a parlé. On est en direct avec Yves Bouvray. Bonsoir, merci d'être parmi nous. Vous êtes président du réseau Écran VO, VO comme Val d'Oise, donc c'est une fédération de salles indépendantes du 95. 4 ans après le Covid, est-ce que l'horizon s'est un petit peu éclairci pour les salles de cinéma indépendant?
Oui, tout à fait. Il y a une belle dynamique. Les spectateurs sont revenus en salle, que ce soit les jeunes, les familles. les anciens dans la dimension intergénérationnelle. Nous, sur le Val-d'Oise, les chiffres de l'an dernier, on est remonté au global sur 1 700 000 spectateurs. Et dans le réseau écran VO des 26 cinémas et deux circuits itinérants, on est à environ 600 000 de ces spectateurs, c'est-à-dire un tiers, un peu plus d'un tiers. Et ça a été regagné parce qu'il y a de la convivialité, il y a de l'accueil, il y a des moments festifs qui accompagnent les séances. Les réalisateurs, les réalisatrices, les professionnels du cinéma sont mobilisés aussi pour organiser des rencontres. Nous, sur le Val d'Oise, on mène beaucoup d'actions d'éducation aux images et on croit aussi beaucoup à ce que les jeunes publics reviennent en famille en temps scolaire. On a plus de 30 000 jeunes qui découvrent 3 films par an dans le cadre des dispositifs scolaires maternels au cinéma, école et cinéma, collège au cinéma. Et en fait, on va auprès des dispositifs scolaires, on va auprès des publics pour les regagner. Et puis eux, ils ont envie d'être gagnés. Hein. Ils ont envie de revenir et ils ont envie de partager une toile. Nous, on sait que...
Mais est-ce que le combat est difficile face au multiplex, pardon ?
Oui, alors en fait, on mène un travail très différent et complémentaires. Les multiplex, on peut dire qu'en moyenne, eux, si on garde leurs entrées, ils sont à 60% d'entrée sur des films américains. Il y a des très bons films américains. Nous, les salles du réseau écran VO, c'est à 60% des films français. Donc à la fois les comédies, à la fois les films d'auteur qui ont des Oscars ou qui ont des Césars, vous voyez qui je veux dire. Et en fait, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui se fait dans un temps de la proximité, de l'accueil, du fait que les spectateurs, il y a 60% des spectateurs sur les chiffres du CNC qui vont à moins de 10 minutes de chez eux au cinéma. Donc
c'est important d'en avoir une à côté de chez soi.
Voilà. Et dans le cadre du printemps de la ruralité, j'avais la chance d'être présent ce matin. Voilà, c'était vraiment passionnant. Et si les spectateurs ne peuvent pas venir à nous, on va aux spectateurs. Et nous, on affrète, il y a 3 circuits itinérants en Ile-de-France, dans l'Essonne avec Cinéson. Roissy Pays de France, ils ont mis un circuit itinérant pour les scolaires et autres pour aller vers les zones blanches de la ruralité. Et nous, on est en train d'en mettre en place un avec écran VO dans le Vexin, sur la communauté de communes Vexin-Val-de-Seine et Vexin-Centre. Et on mène des actions pour aller voir les spectateurs, organiser des séances avec les scolaires, Et là, par exemple, je peux vous donner un exemple très concret. Le 26 avril prochain, on a le plaisir d'avoir Michel Oslo, le papa de Kirikou, qui va aller rencontrer des collégiens, des élèves d'élémentaire à Bray-Élu. C'est vraiment à l'extrême nord-ouest du Val-d'Oise, à côté de la Roche-Billon, à côté de Giverny. Il va rencontrer aussi des élèves de Vigny autour de ses films Azur Asmar, Dili à Paris et Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Et
Des actions vraiment d'aller vers les habitants, en particulier la jeunesse. Je voudrais revenir sur les subventions aussi qui sont accordées à des salles, à des musées. Comment est-ce que ça se passe concrètement, vous qui êtes vice-présidente du département de la Seine-et-Marne, Véronique Vaux, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, est-ce qu'il manque de moyens aussi financiers, ces salles de cinéma, ces musées ?
Nous, nos budgets, au niveau culturel, en Seine-et-Marne, ils sont constants. Voilà, c'est vraiment une volonté du département. C'est très important que la culture soit là pour tous, comme je le disais. Après,
on a pu faire passer à des moments le budget, peut-être après d'autres budgets politiques.
Non. C'est vraiment la volonté du président Jean-François Parigi que la culture reste présente et que les budgets restent intacts et qu'on puisse aider les scènes nationales, qu'on puisse aider les scènes de musique actuelle, que l'on puisse aider également des salles comme le Envolé, le Majestic, enfin, et les salles encore plus rurales s'il y a besoin, aider également les associations, les EPCI, enfin voilà, aider tous ceux qui sont là à la base pour construire une politique culturelle sur le terrain, toujours avec les Seine-et-Marnais. On est toujours, budget constant.
Ils s'y retrouvent, ces exploitants de salles de cinéma
Alors au niveau des salles de cinéma, c'est vrai qu'au niveau du département, nous on est moins concernés.
Bien sûr,
nous travaillons avec Collège au cinéma, École au cinéma, ça oui, nous portons ces projets-là. Mais après, c'est souvent nous ne dotons pas les cinémas.
Sur les moyens financiers, Yves Bouvray, ce sera ma dernière question, justement, comment est-ce que vous vous en sortez et grâce à quoi ?
On a là une chance incroyable en France d'avoir le Centre national du cinéma et il y a un financement de toutes les filières professionnelles qui est assez exemplaire, qui fait qu'on a un cinéma national très fort, une exception culturelle très forte. Et en fait, on a pour nous, la moitié du réseau est classée à réessai. On a aussi des soutiens au renouvellement. Et nous, en tant que structure Écran VO, on est vraiment fortement aidés par la DRAC Île-de-France, par le Centre national du cinéma, les collectivités, le département du Val-d'Oise, on est organisme associé, évidemment, la région Île-de-France, qui est très structurante également. Et c'est vrai que ça permet de créer la différence sur le fait. Et puis aussi, il faut, par rapport à la sociologie du Val-d'Oise, c'est une sociologie où les salles ont été abandonnées par le privé, certaines, pour ouvrir des multiplexes dans les années 80. Et ces salles ont été reprises par les communes. Il y a eu des plans d'aide, notamment de Jack Lang, qui avait été mis en place. Il y a de nombreuses salles qui ont été rachetées par les municipalités pour en faire des lieux culturels de proximité et avec des tarifs très attractifs qui permettent aux familles d'aller au cinéma parfois à 3,50 € la place, 5 € la place, alors qu'on voit qu'il y a un vrai décalage sur l'accessibilité à cet art qui est populaire, où il arrive de trouver dans les multiplexes, on en parlait tout à l'heure avec des collègues, des places à 15 €, 20 €, et c'est là où se fait la différence, c'est le cinéma reste un art populaire qui doit être accessible à tous.
Et c'est aussi comme ça que vous rencontrez votre public.
Pour découvrir Azure Asmar ou d'autres.
Merci beaucoup Yves Ouvray d'avoir été en direct avec nous. On poursuit évidemment ce débat. Est-ce que finalement une partie de la solution, on le disait tout à l'heure, ça passe par le aller vers. Ce à quoi a participé la Fondation Art Explora, c'est aussi le musée mobile. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, Bruno Julliard?
Oui, c'est assez simple. Pendant de nombreuses décennies, heureusement, souvent avec succès, on a considéré que le facteur essentiel pour assurer ce qu'on appelle la démocratisation culturelle, donc le fait que le public accède à la culture, il fallait tout faire pour faire venir dans les institutions culturelles, dans les musées notamment, les théâtres, les opéras ou autres, faire venir les publics. On se rend compte quand même que ça touche des limites, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, plusieurs initiatives ont germé, dont celle-ci, du musée mobile, c'est d'aller vers les publics. Il y a plusieurs manières d'aller vers les publics. Le numérique, par exemple, c'est ce que fait très bien l'État avec le Pass Culture, par exemple. Le numérique est un outil intéressant pour s'adresser à un public plus jeune, notamment. Et puis, il y a physiquement créer des outils culturels pour aller vraiment là où habite la population, là où habitent les gens, et pour aller à leur rencontre. Et donc, on a créé deux camions musées, des musées mobiles, qui sont deux camions dans lesquels des expositions d'œuvres d'art et parfois même de chefs-d'œuvre. Le second camion, par exemple, a été réalisé avec le Centre Pompidou. Et donc, ce sont des chefs-d'œuvre du Centre Pompidou. On a deux expositions par an même qui sont organisées dans ce camion et qui vont dans des territoires ruraux à la rencontre du public. Et on arrive comme ça à atteindre 50 000 personnes par an avec un financement de l'ensemble des parties prenantes, des collectivités comme de l'État et de la Fondation Art Explora. Et ça fonctionne remarquablement bien. Et on a notamment des jeunes publics qui ne seraient pas venus voir des expositions s'il n'y avait pas eu ce camion musée. Et d'ailleurs, je fais juste un lien.
Plus d'un jeune sur deux qui n'était jamais entré
absolument
dans un musée.
Exactement. Et on espère d'ailleurs susciter une curiosité suffisante pour donner envie demain d'aller dans un musée pérenne, si possible pas trop loin de chez soi. Et juste une toute petite remarque sur le cinéma, il y a aussi cette inégalité d'accès au cinéma, et donc nous allons créer très bientôt un troisième camion qui lui sera dédié à l'image et au cinéma, et qui permettra d'organiser la même chose, évidemment pas du tout en concurrence avec des salles existantes, bien au contraire, l'idée c'est d'aller dans des endroits où il n'y a pas d'offre de cinéma, pour avoir donc là non pas un musée mobile, mais un ciné mobile, selon le même modèle.
Laurent Roturier, est-ce que c'est une nouvelle façon aussi de voir les choses. Est-ce que les habitants, quand on leur demande ce dont ils ont envie, est-ce qu'ils participent effectivement ou pas?
Oui, et je crois que c'est aussi une des grandes leçons de cette crise sanitaire qui nous a tous évidemment beaucoup touchés, hein, les uns les autres, mais c'est de voir comment finalement ce rapport sensible, direct, avec les œuvres, comme le fait excellemment le musée mobile, que l'on soutient en ce moment dans sa tournée d'ailleurs pour les Olympiades culturelles. Il est partout en Ile-de-France, il circule, on a lancé dans le Val-d'Oise à Marine cette très belle opération. Et il y a ce besoin, cette appétence finalement, et c'est ce qui est très rassurant, de nos concitoyens d'avoir des rencontres, soit directes avec des œuvres. Vous savez, c'était le rêve de Malraux, rendre accessible à tous les œuvres majeures d'humanité. C'est ce que l'on fait avec la circulation du musée mobile ou avec les microfolies. Mmh. Mais c'est aussi le besoin d'avoir des rencontres avec les artistes, ces rencontres personnelles. Et en sortie de crise, on a beaucoup travaillé d'ailleurs avec les collectivités. On a monté l'été culturel en 15 jours. Donc c'est la quatrième édition. En 15 jours, on a été capable de faire finalement plus de 350 propositions, et notamment en direction des territoires ruraux, pour s'adresser directement à des artistes qui venaient rencontrer la population. Et on le mesure, on le voit à chaque fois que ça génère des envies, ça génère des désirs, des projets communs, et c'est ce qui nous rend aussi très optimistes sur l'avenir, même si la consultation qui est en cours en ce moment, l'enquête qui est remontée, on a des freins. Les freins sur la mobilité, les freins tarifaires, et puis le frein qui est « mais ce n'est pas pour nous ». Et ça, on lutte ensemble pour dire « mais c'est aussi pour vous ». Et je crois qu'on aura sûrement dans l'avenir beaucoup appris de cette période et de cette grande consultation nationale du printemps de la ruralité.
Qu'est-ce que vous espérez justement qu'il découle de ce printemps de la ruralité pour les Seine-et-Marnais ?
Eh bien, ce qu'il en découle du plus pour les Seine-et-Marnais, que ce soit encore plus facile pour eux, que la culture soit encore plus près d'eux. Nous travaillons aussi sur la lecture, en fait. Nous sommes assez novateurs, nous sommes en train de construire ou ouvrir deux CD médiathèques. C'est-à-dire que pour que la lecture soit aussi au plus près des Seine-et-Marnais, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'en fait, il y a souvent une médiathèque sur une ville un peu plus importante, mais il faut ensuite avoir des lieux qui soient en réseau avec cette ville un petit peu plus importante. Et pour ça, au lieu de reconstruire une nouvelle bibliothèque, une nouvelle médiathèque, nous avons décidé d'ouvrir les collèges, lorsque les collégiens ne sont pas dans leur bâtiment, et l'ouvrir à la population, pour que ça soit un lieu vivant. Bien sûr, tout ça, c'est fait avec les équipes enseignantes, voilà. Mais on essaie que la lecture, que le livre soit aussi accessible à tous, parce que ça aussi, c'est la culture et il le faut. Et c'était un moyen de rendre la lecture plus aisée avec les collèges que nous avons, des bâtiments qui sont libres le week-end, qui sont libres le mercredi, qui sont libres le soir. Donc pourquoi pas les faire vivre également avec les Seine-et-Marnais.
Ce qui demande de l'argent quand même.
Ce qui demande de l'argent, ça c'est une volonté, mais qu'on a souhaité...
Que vous avez souhaité mettre en place.
Voilà,
Oui, et puis juste sur la lecture publique, effectivement, c'est souvent le premier accès à la culture. C'est la lecture, donc c'est ce réseau. Et l'État accompagne avec la dotation générale de décentralisation, les constructions médiathèques, mais aussi les réseaux, mais aussi l'informatisation, mais aussi l'acquisition de fonds, mais aussi l'extension des horaires d'ouverture. Et je crois qu'on a la chance en France, là aussi, d'avoir un maillage exceptionnel de bibliothèques à proximité des habitants, mais d'avoir aussi des réseaux, les bibliothèques départementales de près, qui font circuler les ouvrages au plus près de la vie de nos concitoyens.
Ce qu'on constate récemment, je vais vous redonner la parole tout de suite, ce qu'on constate récemment, c'est quand même qu'il y a une dynamique d'ouverture de lieux culturels qui est à la hausse. Quand on regarde en Ile-de-France, et c'est notamment le spectacle vivant qui augmente le plus, les salles de spectacle vivant. On a vu aussi pas mal de monter en puissance des tiers-lieux. C'est le type de lieu qui connaît d'ailleurs le plus d'ouvertures récentes. On s'est dit, bon, les tiers-lieux vont résoudre tout le problème ?
Non, mais je crois que les besoins de la population évoluent. Et c'est aussi notre rôle à nous, ministère de la Culture, DRAC, de nous adapter aux demandes de nos concitoyens, et notamment celles de la jeunesse. Et c'est vrai que la jeunesse a cette habitude d'avoir dans des lieux où on peut découvrir une exposition, assister à un concert, un spectacle vivant, mais aussi avoir un endroit où on peut se restaurer, avoir des boissons. C'est une manière un peu nouvelle, qui est assez ludique, d'appréhender la vie culturelle. Et je crois que c'est finalement tout cet écosystème-là qui est construit, qui est précieux, et que l'on essaye non seulement de préserver, mais aussi de renforcer, de manière à ce que chacune, chacun, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa situation géographique, quelle que soit sa condition, puisse trouver un point culturel à proximité de la maison.
Je crois aussi que beaucoup, ces dernières années, on a tous collectivement beaucoup appris sur la manière peut-être de donner plus envie, c'est aussi de proposer des expériences. C'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement voir une exposition ou voir des œuvres, on va d'abord voir des œuvres, évidemment, mais on souhaite aussi une expérience. Et dans l'expérience, il y a effectivement la qualité de l'accueil, il y a la qualité de la restauration, il y a la manière dont les œuvres sont présentées, la médiation, la compréhension de l'ensemble de ce qui nous est présenté. Et ça, je trouve qu'il y a des progrès qui sont exceptionnel à tous les niveaux, grâce à l'ensemble des acteurs d'ailleurs qui ont été réalisés. Il faut absolument le saluer.
Et nous nous rendons aussi dans les EHPAD, nous nous rendons aussi dans les hôpitaux, nous nous rendons aussi au plus près des publics empêchés. Nous essayons aussi d'avoir une politique culturelle pour tous. vraiment, pour tous les... Pour tous les publics.
Est-ce que l'avenir de l'art est hors les murs? Je pose la question à l'Assemblée.
L'avenir de l'art, il est dans les murs, parce qu'on a besoin aussi de lieux pour préserver les œuvres. C'est du patrimoine. Donc c'est fragile. Il faut pouvoir le préserver, le conserver et puis le transmettre. Mais il est aussi, effectivement... Il est aussi dans l'espace public. Il y a énormément, on a la chance en Ile-de-France d'avoir un centre national des arts de la rue, qui est dans le Val d'Oise d'ailleurs. Mais cette question de l'espace public, elle est là quand on fait des festivals l'été avec, je pense au travail que fait Héloïse Luzzatti, un temps pour elle, avec où on redécouvre des concerts de compositrices qui étaient oubliées. On est aussi dans l'espace public. Et je crois que ça ne se pose pas. Ça ne s'oppose pas et on a besoin de l'espace public, d'espace fermé, mais aussi d'espace ouvert. La culture, c'est l'ouverture.
Il y avait une convention entre, d'ailleurs, le ministère de la Culture et le ministère de l'Agriculture, d'ailleurs. Qu'est-ce qui a découlé de cette convention?
Absolument, parce qu'on l'a évoqué aussi ce matin. On a la chance d'avoir un ministère de la Culture et qui a un réseau de lycées agricoles qui sont des lieux de proximité pour la vie culturelle. Vous ne le savez peut-être pas, mais on a des lycées agricoles où on a des professeurs chargés de l'enseignement socioculturel et qui accompagnent les élèves. Et c'est un ancien élève de lycée agricole qui vous le dit. Donc j'ai pu bénéficier de cette formation-là. C'est un réseau qui est extrêmement actif. On a dans les Yvelines des résidences d'artistes et on peut aussi, avec les lycées agricoles, s'adresser à une population qui n'aurait pas forcément franchi toute seule les lieux culturels, mais qui va venir se former, développer des appétences, des savoirs, des connaissances, et être là aussi dans une dynamique de formation, parce que la vie culturelle, c'est la création, la diffusion, la formation et la participation. C'est une forme de carré magique, et c'est l'ambition que nous avons pour ce printemps de la ruralité.
Bon, quelle piste pour amener l'art encore plus près des riverains de ces territoires ruraux dans les années à venir? Qu'est-ce que vous verriez comme piste pour aller encore plus loin?
Vous disiez, est-ce que le hors les murs est l'avenir de la culture? Je crois qu'il ne faut pas opposer le hors les murs et le dans les murs. Parce que d'ailleurs, pour avoir du hors les murs de qualité, il faut qu'il y ait des musées, des institutions culturelles, des théâtres, des opéras, qui aient les moyens de créer de belles offres culturelles et artistiques pour aller vers les publics. Mais je pense quand même que c'est un outil de développement démocratique qui est vraiment fondamental. On a la chance en France d'avoir une culture massivement soutenue par l'État, par les collectivités et de plus en plus par le secteur privé également. C'est une chance incroyable, sans comparaison par rapport à d'autres pays. Peu de secteurs culturels dans d'autres pays ont réussi à traverser la crise du Covid comme la France l'a fait, parce que l'État était très présent, les collectivités ont été très présentes, et en France, ça a tenu bien mieux qu'ailleurs. Mais j'ai envie de dire, c'est justement parce qu'on a une telle attention à la culture et aux artistes en général, qu'on ne peut pas supporter, nous, militants de la culture, on ne peut pas supporter que ce soit injustement accessible sur le territoire. Et donc, tout ce qui pourra permettre que le plus grand nombre y ait accès, il faut qu'on le fasse. Et donc, il faut faire feu de tout bois. On n'a pas parlé du bénévolat, par exemple, mais je suis convaincu qu'on peut aussi faire appel à une forme de citoyenneté culturelle pour contribuer à cet effort sans fin. Mais c'est le plus beau des efforts, je trouve, le plus beau des objectifs, que de partager la culture.
Merci.
C'est dès le plus jeune âge.
Et la mobilité. Je suis persuadé qu'on a un sujet pour l'avenir qui est de travailler sur la mobilité entre les lieux culturels qui sont plutôt dans la ville centre, mais aussi la présence des artistes. Parce que la mobilité, c'est dans les deux sens.
Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce nouveau numéro d'Île-de-France Politique, donc sur la culture en milieu rural. L'info se poursuit sur BFM Paris-Île-de-France.